Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Prague International et vous avez bien raison. Voici les infos et les titres de ces infos avec d'abord la triste nouvelle, le décès du philosophe Jan Sokol, ancien dissident devenu ministre. L'interdiction d'entrée du territoire allemand sera prolongée selon le ministère de la Santé à Berlin. Et puis en sport, une paire tchèque en demi-finale de l'Open d'Australie. Le philosophe tchèque Jan Sokol est mort à l'âge de 84 ans. Son décès a été annoncé ce mardi par la bibliothèque Václav Havel, gendre du philosophe Jan Patočka. Jan Sokol avait signé la charte 77, parmi les premiers signataires d'ailleurs. Il avait publié en samizdat sous le régime communiste, engagé dans le forum civique pendant la révolution de velours. Jan Sokol était devenu député en 1990, puis ministre de l'éducation en 1998, avant de candidater et de perdre à l'élection présidentielle contre Václav Klaus. C'était en 2003. Francophone, Jan Sokol était officier de la Légion d'honneur française et répondait toujours avec la plus grande amabilité aux demandes d'entretien de la rédaction francophone de Radio Prague International. On rediffuse à cette occasion un de ses entretiens. Le ministre de la Santé allemand Jens Spahn envisage de prolonger les mesures limitant l'entrée du territoire allemand pour les personnes en provenance de pays considérés à très haut risque en raison des variants du coronavirus. Le magazine Der Spiegel indique ce mardi que ces restrictions seront étendues au-delà du 1er mars. La Tchéquie, vous le savez, fait partie depuis dimanche de ces zones à très haut risque selon Berlin. Et la frontière allemande ne peut désormais être franchie que dans des cas exceptionnels, ainsi que par les ressortissants allemands et les résidents en Allemagne. Bruxelles a critiqué les mesures prises unilatéralement. La Commission européenne a annoncé lundi qu'elle allait envoyer un courrier à l'ensemble des États membres pour leur rappeler leurs engagements à se coordonner. Le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček, a annoncé lundi qu'il briguerait en avril prochain la présidence du Parti social-démocrate, le ČSSD, actuellement dirigé par le ministre de l'Intérieur Jan Hamáček. « Nous devons changer de style et vite », c'est ce qu'a indiqué au quotidien Pravo, le chef de la diplomatie, qui est actuellement vice-président du parti. Un récent sondage qui ne donnait pas, c'est à signaler pour la première fois depuis longtemps, le parti Ano d'Andrej Babiš en tête. Eh bien, ce sondage plaçait le ČSSD sous la barre des 5% nécessaires pour être représenté au Parlement. Le ČSSD, rappelons-le, a fait le choix depuis plusieurs années de former une coalition gouvernementale avec Ano et le Premier ministre Andrej Babiš. Jan Hamáček a indiqué qu'il déclarerait en temps voulu sa candidature ou non à sa propre réélection. Et puis, propulsé sur la scène politique par le Premier ministre Andrej Babiš, l'ancien ministre de la Santé Adam Wojtyla est en passe d'être nommé ambassadeur en Finlande, selon les informations publiées mardi par le site Seznam Spravi. Premier des trois ministres à avoir déjà servi depuis le début de la pandémie à Prague, Adam Wojtyla a été remplacé par Roman Primula puis Jan Blatný. Sa nomination par le gouvernement à Helsinki, nomination qui doit encore être validée par le chef de l'État, est déjà critiquée par l'opposition. Selon l'ancien ministre des Finances, Miroslav Kalousek, ce type de carrière express est démotivant pour les jeunes diplomates professionnels et le corps diplomatique ne devrait pas être constitué de cette manière. Fin de citation. On passe au sport avec, je vous le disais en titre, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková. Les deux Tchèques qui sont de nouveau parvenus à se qualifier pour la demi-finale de l'Australian Open. C'est du tennis bien sûr. En ce début de semaine, un an après avoir atteint le même dernier carré à Melbourne, les Tchèques ont battu en quart de finale la paire mexico-canadienne composée par Sharon Fishman et Juliana Olmos en 3-7 pour une place en finale. Elles devront s'imposer mercredi face à l'équipe croato-serbe formée par Daria Jurak et Nina Stojanovic, la paire tchèque tête de série numéro 3 du tournoi, par favorite avec déjà à son actif des victoires à Roland-Garros et à Wimbledon. Un mot sur la météo, elle est en hausse, en tout cas le mercure est en hausse, avec des températures autour de 5 degrés prévues pour les maximales, si on en croit les prévisions. Un peu de grisaille, un peu de pluie annoncée, avec des averses, d'abord de la neige dans la matinée de mercredi, puis de la pluie et des maximales donc autour de 5 degrés. Les infos vous étaient présentées aujourd'hui par Alexis Rosenzweig et dans une poignée de secondes, c'est la suite du programme en français de Radio Prague International. Très bonne écoute.
faits et événements en République tchèque.
Merci Alexis Rosenzweig pour ces informations. Le programme en français de Radio Prague International se poursuit avec au programme un portrait consacré au philosophe Jan Sokol, décédé aujourd'hui. Au programme ensuite une découverte archéologique en Moravie et en dernière partie d'émission, un zoom consacré à l'oiseau de l'année 2021. Le titre a été décerné à la Buse Variable par la Société Tchèque d'Ornithologie. Très bonne écoute de Radio Prague International. Tout d'abord donc, vous l'avez entendu dans les informations, nous avons appris aujourd'hui la mort du philosophe, ancien dissident, professeur d'université et homme politique après la chute du régime communiste Jan Sokol à l'âge de 84 ans. Son portrait vous a été préparé et présenté par Magdalena Hrozinkova.
Jan Sokol a été, pour la petite histoire, orfèvre et mécanicien durant quelques années de sa vie sous le régime communiste. Il a étudié ensuite les mathématiques pour se consacrer enfin à la philosophie chrétienne, à l'étude des religions et à l'anthropologie philosophique. Pour la grande histoire, cette fois, il a été dissident et un des premiers signataires de la Charte 77, membre du Parlement tchécoslovaque après la Révolution de Velours, ministre de l'Éducation dont la seconde moitié des années 90, ou encore candidat à la succession de Václav Havel à la présidence de la République en 2003. Gendre du philosophe Jan Patočka, Jan Sokol a également été un auteur fécond et traducteur de nombreux philosophes français en tchèque, francophone et officier de la Légion d'honneur française. Jan Sokol a été maintes fois l'invité de la rédaction francophone de Radio Prague International. Dans l'une de nos émissions, il s'est souvenu de son engagement au sein du mouvement de la dissidence formé autour de Václav Havel.
On ne peut pas comparer ma position dans la dissidence tchèque avec celle de Václav Havel. Je n'ai pas appartenu à au cercle étroit de ses amis et collaborateurs. Mais on a eu plusieurs rencontres dont je me rappelle plusieurs qui sont toujours très agréables, très, très impressionnantes. Havel était un homme très, très calme, très, très ouvert et très amical. Donc, on s'est rencontrés, par exemple, par une chance, j'étais aux États-Unis en 91, quand Havel est venu au Parlement américain, à Washington. On s'est rencontrés dans la rue. Mes amis qui m'ont accompagné étaient éblouis. Havel marchait seul sur la rue. Et dans la rue, on a eu une très belle conversation sur l'Amérique et ce qui est la différence de la société tchèque et américaine.
Jusqu'à la fin de sa vie, Jan Sokol est resté un observateur très attentif de l'évolution politique de son pays, mais aussi morale de la société tchèque. Professeur à la faculté des sciences humaines de l'université Charles et qu'il a cofondé après la révolution de velours, il écrivait aussi ces dernières années des articles pour l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Il a même initié un projet incitant les seniors tchèques à transmettre de cette manière leur culture à la jeune génération. Invité dans les studios de Radio Prague en novembre 2014, à l'occasion du 25e anniversaire de la Révolution de Velours, Jan Sokol avait répondu à la question de savoir ce qui restait aujourd'hui, selon lui, des grands changements de 89. Était-il déçu, comme certains de ses concitoyens, de l'évolution de la République tchèque ?
Grâce à mon scepticisme de 89, je n'étais jamais déçu depuis. Bon, on a su bien que les choses n'iront pas si simplement, si vite comme au mois de novembre, décembre 89, qu'il y aura des problèmes et naturellement un changement de système socialiste de l'État dans un pays normal, c'est une chose qui n'a jamais encore été mise au bout, oui, jamais. Donc, comme le disait Michnik, il est beaucoup plus facile de prendre des œufs et faire une omelette que de le faire en envers. Prendre une omelette avant de faire des œufs. Et donc c'était le problème, oui.
un fragment d'os de bœuf découvert lors de fouilles archéologiques près de Breslav en Moravie du Sud éclaire sous un nouveau jour la question du système d'écriture utilisé par les anciens Slaves. Datant du 7e siècle, cet os semble indiquer que les runes germaniques étaient la plus ancienne écriture utilisée par ceux-ci, et non l'écriture glagolitique comme on le pensait jusqu'à présent. C'est avec Anna Kubishta.
L'annonce a été faite par l'équipe d'archéologues de l'université Masaryk de Brno qui a travaillé sur le site de fouilles près de Břeclav. C'est en 2017 qu'a été découverte cette côte cassée de bovin qui ensuite a été analysée par des scientifiques tchèques, autrichiens, suisses et australiens. L'étude de ce fragment d'os a été réalisée grâce aux toutes dernières méthodes de datation génétique et au carbone 14. Les inscriptions gravées ont été analysées par Robert Nedoma, spécialiste des langues germanique ancienne à l'université de Vienne, qui a pu déterminer qu'il s'agissait de runes de l'ancien Futhark utilisées par les habitants germanophones de l'Europe centrale du 2e au 7e siècle. Jiří Macháček est le chef de l'équipe d'archéologues de l'université Masaryk à Brno. Il nous en dit plus sur ce que l'on peut lire sur ces runes.
Ces runes ne vytvářely žádné konkrétní slovo, ale
ces runes ne forment pas un mot concret. Elles sont écrites dans l'alphabet runique. Elles sont classées différemment par rapport à notre alphabet. L'alphabet runique commence par F, U, T, H, A, R, K. C'est pourquoi nous l'appelons Futhark. Sur cette côte cassée, nous avons retrouvé les dernières lettres de cet alphabet runique.
La question est évidemment de savoir quel était le sens de cette inscription. Jiří Macháček soulève deux hypothèses.
Jednak právě ty runy se občas psaly nebo vyskytují na archeologických památkách.
Chaque rune possédait un pouvoir magique. Elles étaient utilisées dans les anciennes traditions religieuses germaniques. Quand on les écrivait dans le bon ordre, leur pouvoir augmentait. L'autre possibilité qui semble quand même plus probable, c'est que ces runes étaient un outil pédagogique destiné à quelqu'un qui apprenait à les écrire. On ne peut donc exclure qu'il s'agit là d'une preuve que les anciens Slaves aient acquis cette connaissance de l'alphabet runique des anciens Germains et qu'ils aient essayé de l'apprendre à l'écrire également.
Jusqu'à présent, c'est l'écriture glagolitique qui était considérée comme le plus ancien système d'écriture utilisé par les Slaves. Le glagolitique a été inventé et importé en Europe centrale au 9e siècle par Saint Cyril et Méthode, les deux moines byzantins à l'origine de la christianisation de cette région d'Europe jusqu'alors païenne.
Cyril et Méthode ont en effet inventé cet alphabet pour les Slaves, mais cette découverte signifie qu'il est possible qu'ils aient su écrire bien avant cela. Ces runes étaient utilisées dans la religion païenne de ces sociétés pré-chrétiennes. Les Germains les utilisaient, même si évidemment, il faut rappeler que c'est un savoir qui n'était maîtrisé que par un groupe restreint de personnes appelées maîtres des runes. Tous ces savoirs ont été remplacés par le christianisme et l'écriture latine à l'ouest, glagolitique à l'est. Ils ont peu à peu disparu. Si les Slaves ont adopté cette écriture, elle a aussi disparu progressivement à partir du 9e siècle avec la diffusion du christianisme.
Désormais, pour les historiens, l'objectif sera de déterminer, si possible, dans quelle mesure cette écriture était répandue dans les sociétés des anciens Slaves. En plus de montrer la porosité des contacts entre Slaves et Germains, cette découverte vient également appuyer d'anciennes hypothèses abandonnées, faute de preuves. Jiří Macháček.
Au début du Xe siècle, un moine bulgare du nom de Hraber a rédigé un traité sur l'écriture où il évoquait l'histoire de Cyril et Méthode. Mais il mentionne aussi le fait qu'avant leur arrivée, les Slaves utilisaient des traits et des entailles. Les chercheurs n'ont jamais pu se mettre d'accord sur le sens de cette phrase. Certains ont imaginé que les anciens Slaves aient pu utiliser des runes, mais cette hypothèse a été rejetée parce qu'on n'en avait jamais retrouvé. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons donc la preuve que les anciens Slaves ont pu être en contact avec les runes et ont pu les utiliser pour écrire. Nous allons devoir encore travailler dessus, néanmoins, car c'est vraiment la toute première découverte de la présence de runes chez les Slaves.
Panorama.
Pa.
No.
Ra.
Ma.
Bien que désigné en tchèque sous le nom de Kanye Lesny, soit comme buse forestière, c'est pourtant bien la buse variable qui a été désignée oiseau de l'année 2021 en République tchèque par la Société tchèque d'ornithologie. Rapace très répandue dans les campagnes d'Europe centrale, la buse variable succède à l'hirondelle de fenêtre, autre oiseau relativement commun dans nos paysages. À la différence toutefois de l'hirondelle, la buse variable ne figure pas sur la liste rouge des espèces menacées de disparition. Membre comme la Société tchèque d'ornithologie de l'organisation internationale BirdLife, François Turian a répondu aux questions de Radio Prague Internationale et c'est au micro de Guillaume Narguet.
Alors François Turian, la buse variable a donc été désignée oiseau de l'année en République tchèque pour 2021. Il s'agit d'une buse, un oiseau que tout le monde connaît plutôt bien. Mais la buse variable, en revanche, est un oiseau plutôt méconnu. Alors à quoi doit-elle son qualificatif, cet adjectif de variable?
Alors oui, variable désigne en fait le fait que chez cet oiseau, on a des plumages assez différents d'un individu à l'autre. Donc, il ne s'agit pas d'une variation de couleur qui varie en fonction, par exemple, de la saison, comme on le rencontre chez certains oiseaux, comme le lagopède qui deviennent tout blanc en hiver ou le lièvre variable. Mais là, il s'agit bien d'une variation individuelle. Voilà, on a des buses qui sont très blanches, d'autres qui sont pratiquement noires, avec tous les gradients, je dirais, de couleurs entre ces deux formes. La plupart des buses sont brunes, généralement brunes, avec une bavette, un croissant clair sur la poitrine. Mais il y a quand même des variations de couleurs assez importantes. Ça s'explique parce que c'est un oiseau de proie qui a une répartition assez large. Elle habite le nord de l'Europe, la Russie, mais aussi les pays méridionaux. Et donc, il y a différentes aussi sous-espèces qui se sont créées au fil de l'évolution. Et ces sous-espèces présentent quelques particularités aussi de coloration. Et donc, c'est vraiment la variabilité de cette coloration individuelle qui a donné son nom français à cet oiseau.
Que dire de ce rapace assez méconnu, alors que c'est l'oiseau de proie qui est le plus répandu dans notre environnement? C'est même l'oiseau de proie qui est le plus proche de l'homme.
Oui, c'est vrai que c'est parmi les rapaces diurnes, c'est l'espèce la plus fréquente en Europe. On la rencontre vraiment partout en Europe, à l'exception du nord de la Scandinavie, des zones les plus froides, où là elle laisse sa place à sa cousine, la buse pattue, qui est plus adaptée au froid. Mais autrement, elle est vraiment présente partout. Elle n'a pas des exigences très très spécialisées, donc ce qui explique aussi sa grande répartition. Il lui faut quelques arbres pour sa reproduction, il lui faut suffisamment de nourriture, et puis voilà, donc elle est vraiment partout. Elle se rapproche aussi des bords des routes, notamment à cette saison en hiver, quand le temps est froid, les bords des routes davantage déneigées lui offrent beaucoup plus de possibilités pour chasser les petits rongeurs. Évidemment, c'est pas sans risque pour elle, puisque à ce moment-là, elle se rapproche du trafic routier qui cause quand même une forte mortalité chez cet oiseau.
Lorsque l'on se promène, par exemple dans la plaine, avec les enfants, et que l'on voit un oiseau, un rapace planer, tourner dans le ciel, qui est souvent en train de chasser des petits rongeurs, on dit souvent qu'il s'agit d'une buse, parce que justement c'est l'oiseau qui nous est le plus familier. Mais est-ce qu'il s'agit bien de cette buse variable, et comment la reconnaître?
Alors la buse variable est un rapace de taille moyenne, qui fait à peu près, dont l'envergure est à peu près d'1,20 m, un poids de 800 grammes, donc il fait partie de ce qu'on appelle les rapaces de taille moyenne, au même titre que la buse ou que la bondrée apivore. Donc pour reconnaître la buse, il y a deux, je dirais en vol, il y a deux critères qu'il faut examiner. La buse tient généralement lors du vol plané ses ailes légèrement surélevées, donc ça forme un très léger V quand on regarde l'oiseau par l'arrière ou par l'avant. Donc ça, c'est une bonne façon de la distinguer d'autres rapaces qui, eux, tiennent généralement les ailes plats ou alors légèrement tombants. Et puis le deuxième critère, c'est d'observer la queue qui, au moment du vol plané est vraiment très arrondie. Elle est très arrondie et ça permet de distinguer la buse des Milans qui, eux, ont une queue fourchue. Donc voilà, je dirais ces deux principaux critères qu'il faut examiner lorsqu'on observe un rapace en vol. Et voilà, dans beaucoup de cas, il s'agit de la buse variable, parce que c'est encore une fois le rapace le plus fréquent, mais elle peut coexister avec d'autres espèces d'oiseaux de proie.
Les populations de buses variables sont relativement importantes. C'est le rapace le plus répandu, par exemple en République tchèque, où on estime le nombre d'oiseaux entre 11 et 14 000. Alors c'est un oiseau qui autrefois a été menacé. L'augmentation de sa population, est-ce que cela signifie que c'est un oiseau qui sait s'adapter à la transformation des paysages et de son environnement ?
Oui, je pense que c'est une espèce assez adaptable. Elle peut tirer son épingle du jeu du fait qu'elle se nourrit principalement de petits rongeurs qui restent quand même très abondants dans les milieux cultivés. Il y a aussi le fait que c'est un oiseau maintenant, au fil des années, les paysans ont quand même appris que dans la plupart des cas, les rapaces, qu'ils soient diurnes ou qu'ils soient nocturnes, sont des auxiliaires de l'agriculture en débarrassant les cultures de beaucoup de petits rongeurs. Donc, ils sont plus persécutés comme autrefois. Et ça explique aussi que ces oiseaux sont maintenant quand même assez répandus. La buse a besoin de bosquets pour sa nidification, mais elle n'est pas très exigeante. Elle n'a pas besoin d'arbres en particulier. Il lui suffit de grands arbres sur lesquels elle va pouvoir construire son nid, voire occuper des nids de corneilles ou de corbeaux. Par ailleurs, elle peut chasser un peu partout dans l'environnement. Évidemment, les densités seront plus élevées lorsqu'il y a suffisamment de haies ou bien d'arbres isolés dans le paysage cultivé. Ben, ça, c'est des sites qui lui servent de perchoir et qui lui permettent de chasser dans de meilleures conditions. La buse ne va pas chasser depuis le ciel. Elle a besoin de perchoirs pour pouvoir surveiller son territoire et fondre ainsi sur ses proies. Donc elle est quand même liée à un certain nombre de structures boisées, tant pour sa nidification que comme perchoir pour la chasse.
Et vous avez évoqué sa perception par les cultivateurs, les agriculteurs. C'était aussi la bête noire des chasseurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ?
Ouais, les rapaces restent quand même dans le milieu de la chasse pas toujours très bien connotés. Il y a quand même encore un certain nombre de préjugés qui circulent. Il y a aussi évidemment la bêtise humaine qui fait que certains rapaces ou d'autres oiseaux protégés sont encore trop souvent victimes de coups de feu. Voilà, donc je pense que c'est plus vraiment de l'ignorance, mais c'est plutôt de la bêtise qui fait que certains prennent encore ces oiseaux pour cible. On a effectivement d'autres rapaces qui se nourrissent d'oiseaux et qui sont encore plus victimes de ces tirs illégaux, puisqu'ils sont considérés comme des concurrents. Par exemple, certains rapaces qui se nourrissent de perdrix ou de faisans sont encore considérés par certains chasseurs comme des concurrents.
Tout le monde n'a pas la chance, comme vous, de vivre en Suisse, de pouvoir observer des rapaces plus majestueux, peut-être comme l'aigle. Alors pourquoi, selon vous, est-il intéressant d'observer un oiseau de proie comme la buse variable? Qu'est-ce qu'elle nous dit finalement et qu'est-ce qu'elle nous apprend?
Alors la buse nous apprend peut-être la patience déjà, parce que lorsque l'on observe une buse sur son perchoir, elle peut passer des heures à attendre le passage d'un petit rongeur qui lui servira peut-être de pitance. Je dis bien peut-être parce que c'est aussi un rapace qui ne réussit pas ses tentatives à tous les coups. Et donc je pense qu'elle peut, les rapaces par ce comportement de grande patience, ils peuvent nous inculquer un peu cette vertu-là. D'autre part, je pense que quand on voit voler un rapace, quand on le voit s'élever dans les airs, la buse parfois monte très haut grâce au courant thermique, ce sont des maîtres du vol plané. Et je pense à ce moment-là que c'est simplement l'émerveillement qui peut nous saisir. Et voilà, on a tous envie de pouvoir imiter un rapace voler comme ça sans utiliser la moindre énergie pour s'élever dans le ciel. Et ça, c'est aussi quelque chose que les rapaces peuvent nous enseigner face à simplement la beauté de leur vol et la majesté de ces oiseaux.
Il fait actuellement très froid en Europe. La buse variable est un oiseau qui ne migre pas ou alors peu. Est-elle donc menacée? Et si oui, comment peut-on finalement l'aider?
Je dois un petit peu vous contredire parce qu'une partie des populations de buses sont quand même migratrices. On peut assister à des migrations assez spectaculaires dans certains endroits de passage en Europe. Traditionnellement, c'est le mois d'octobre qui voit partir les buses du nord et elles gagnent à ce moment-là des latitudes plus clémentes. Donc on a quand même parfois des journées avec des milliers de buses que l'on peut observer en train de migrer, souvent en grands groupes qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'oiseaux. Ceci dit, c'est vrai qu'on a pas mal d'oiseaux, de ces oiseaux qui vont passer l'hiver sous nos latitudes. Ce sont souvent des buses qui justement viennent du nord de l'Europe. Et en Tchéquie aussi, les buses souffrent du froid. Elles ont besoin de plus de nourriture en hiver pour pouvoir compenser la perte d'énergie due au froid. Et donc là, c'est vrai que leur survie est plus délicate. Et la mortalité aussi due au trafic routier est plus forte en hiver puisque les buses sont affaiblies. Elles n'ont souvent plus les réflexes qui leur permettaient en été d'éviter les véhicules. Donc voilà, on peut pas faire grand-chose, je dirais, directement soi-même. On déconseille quand même de nourrir ces oiseaux. Par contre, c'est vraiment l'engagement des sociétés de protection de la nature comme BirdLife qui s'engage pour finalement aussi les habitats des oiseaux plus largement, qui permet aussi d'offrir des meilleures conditions de vie à toute une série d'espèces, dont la buse variable.
Vous avez évoqué le vol de la buse. Et alors on approche maintenant du mois de mars. C'est une période de l'année durant laquelle la buse variable entame une parade très impressionnante. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire?
Oui, c'est exactement ça. Et ça, c'est aussi un spectacle magnifique. Donc moi, j'encourage les gens à aller se promener en lisière de la forêt, des petits bois, où là, on repère assez facilement les buses. Il faut pour cela choisir une journée sans vent, bien ensoleillée, à partir de fin février, début mars. Et à ce moment-là, on a de bonnes chances de repérer cette fameuse parade nuptiale où on voit les deux oiseaux qui cerclent dans le ciel avec des cris miaulés très aigus qu'on repère de loin. Et ces cris sont des cris de contact qui renforcent la cohésion du couple et qui permettent aussi au mâle de séduire la femelle. Pour ça, il va aussi festonner, c'est-à-dire qu'il va faire des piquets successifs en remontant comme ça en chandelle et puis tout en criant. Et ces parades nuptiales, encore une fois, sont vraiment spectaculaires et c'est un des beaux spectacles que l'on peut observer dans le courant du mois de mars.
François Turian, alors on le sait parce qu'on vous interroge maintenant pratiquement chaque année, on sait que vous appréciez tous les oiseaux. Néanmoins, est-ce que le choix de cet oiseau assez commun qu'est la buse variable, est-ce que ça vous semble un bon choix pour un oiseau de l'année?
Oui, tout à fait. Chaque partenaire BirdLife choisit des oiseaux différents avec des fois des critères aussi de choix qui sont un peu différents. Ici en Suisse, BirdLife a choisi cette année la chevêche d'Athéna. C'est un rapace cette fois-ci nocturne qui est devenu un peu plus fréquent grâce à nos efforts de conservation, mais qui reste évidemment beaucoup plus rare que la buse variable. Donc oui, on peut comprendre aussi le fait qu'on peut mettre en lumière des oiseaux aussi fréquents parce que c'est souvent ces oiseaux-là que le grand public a plus de chances de pouvoir observer. Donc je pense que c'est ce critère qui a dû présider dans le choix de l'oiseau de l'année en République tchèque. Et je pense que c'est un bon choix, puisque, encore une fois, on peut mieux protéger ce qu'on connaît et ce qu'on a la chance de pouvoir observer de manière assez courante.
François Turian, merci beaucoup. Grâce à vous, on sait maintenant à peu près tout sur cette buse variable. Encore merci donc, et puis donc à l'année prochaine pour un autre oiseau de l'année.
Merci à vous, au revoir, bonne journée en Tchéquie.
C'est ainsi que se conclut votre programme d'actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague International. Rendez-vous demain pour une nouvelle demi-heure d'actualité tchèque. D'ici là, l'information se poursuit sur notre site internet français.radio.cz ou sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, ahoy!